Ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon? Chers frères et sœurs, l'étonnement est le début de la sagesse, disait un philosophe, mais l'étonnement n'est-il pas aussi porte d'accès à la parole de Dieu qui nous permet de la reconnaître comme telle, déjouant nos calculs et raisonnements? Dans cette parabole, on peut être étonné du comportement de ce maître qui risque de faire couler son entreprise. Et bien que cet étonnement nous permette d'entrer dans l'histoire des ouvriers de la 11e heure en nous souvenant que l'Évangile est toujours une bonne nouvelle, celle-là même que nous voulons découvrir aujourd'hui. Premier point, de l'insolite au scandale. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Ce maître nous apparaît déjà comme un homme bon, qui n'a de cesse, matin, midi et soir, de rendre une dignité à de pauvres hommes réduits à la misère, appelant à sa vigne ceux qui traînent dans les rues pour leur fournir le pain dont ils ont besoin pour vivre. Une situation tragique qui rejoint beaucoup de celles et ceux qui connaissent aujourd'hui encore l'insécurité de l'emploi, l'angoisse du lendemain. Cependant, tout soucieux qu'il soit de ces chômeurs, nous comprenons bientôt que ce patron n'est pas tout à fait ordinaire. En effet, lorsqu'après 12 heures de travail, il distribue le salaire, il commence par les derniers, donnant à ceux-ci la même pièce d'argent que les premiers embauchés. Et tandis que les uns sont aux portes du bonheur, les autres récriminent. Alors que nous avons enduré le poids du jour et de la chaleur, tu nous traites de la même façon que ces derniers qui n'ont travaillé qu'une heure. Mais alors, direz-vous, quelle bonne nouvelle Jésus nous donne-t-il dans cette histoire? C'est là qu'il nous faut aller en profondeur dans le récit pour en trouver sa signification essentielle. Ce qui nous conduit à un second point. Oui, une bonne nouvelle pour tous. Rappelons-nous que cette parabole est dite en un temps et lieu précis, devant des hommes concrets, censés comprendre ce langage et un langage qu'à notre tour nous pouvons déchiffrer à la lumière de la révélation. Allez à ma vigne. C'est une invitation qui revient à plusieurs reprises dans ce passage, dans cette parabole, et qui est peut-être le cœur de celle-ci. Mais qu'est-ce que c'est cette vigne? Jésus le dit. C'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, si on s'en tient à d'autres discours de Jésus, on comprend que c'est un bonheur dans lequel l'homme est invité à entrer, et nous voici de plein pied dans cette histoire qui nous fait entrevoir que ce royaume n'est pas vraiment à l'image de ceux de notre monde. Quant au maître de la parabole, nous le comprenons, c'est Dieu, un Dieu qui, depuis le péché des origines, n'hésite pas à parcourir la terre jusqu'à s'incarner dans un monde endurci, blindé. Un père sans cesse à la recherche de ses fils, qui l'invite à retrouver son intimité perdue. Et puis il y a ces murmures, et il nous semble être l'écho de ces récriminations contre Jésus lorsqu'il accueille publicains, pécheurs, prostituées et mange à leur table. Quant aux ouvriers, de la première heure, de la troisième heure, de la sixième heure, de la neuvième heure, ne sont-ils pas tous ceux qui, depuis le commencement, saints et prophètes, ont été appelés à l'édification du peuple de l'Alliance ? Peut-être sont-ils aussi ces scribes et prêtres auxquels Jésus s'adresse ici, qui, depuis leur jeunesse, scrutent les Écritures et qui, après avoir manié les instruments pour travailler la vigne, vont bientôt tenir clous et marteaux pour crucifier le maître qu'ils accusent d'imposteur. Et pourtant, ne sont-ils pas aussi invités au même bonheur, au même royaume? Et puis, il y a encore des ouvriers que je n'ai pas cités, ce sont ceux de la onzième heure, les derniers arrivés. Si l'on regarde ce que nous dit la tradition sur ces ouvriers de la onzième heure, on nous dit que ce sont tous ceux qui ont accueilli le Christ Jésus, qui goûteront le bonheur de la résurrection et parmi lesquels nous trouvons les marginaux, ou dans l'Évangile, les collecteurs d'impôts, les prostituées. Tous ceux qu'on peut nommer malcroyants, les païens, les improductifs, les blessés de la vie, tous ces derniers qui sont devenus premiers avec le bon larron qui, sur la croix, reçoit le fabuleux salaire de la dernière minute. Incroyable, mais vrai. Oui, frères et sœurs, voilà bien la bonne nouvelle. Tous sont invités au même royaume, au même héritage, au même bonheur. Mais, dure réalité, l'amitié du Dieu vivant qui s'approche de tout homme et offre sa vie à tout moment ne fait pas que des heureux. Le salut accordé sans restriction fait naître des murmures insatisfaits et haineux. Faut-il que ton œil soit mauvais, parce que moi je suis bon? Cela nous conduit à un troisième point de notre réflexion. Oui, faut-il que ton œil soit mauvais, parce que moi je suis bon? Si nous regardons cette parabole, ce qui s'y dit, ce qui s'y fait, ce qui s'y passe, nous voyons que c'est au moment même où Dieu manifeste sa bonté dans la rétribution des derniers embauchés que se révèlent les embauchés de la première heure. Mais Dieu ne les avait-il pas déjà prévenus? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins sont au-dessus des vôtres. Mais pourquoi deviennent-ils mauvais? C'est sans doute ici que nous touchons le cœur de cette parabole, le message que Jésus veut donner. Au lieu de se réjouir que tous aient part au même héritage qu'eux, voilà les fils aînés qui se révoltent. Alors que Dieu voulait les hisser au niveau de l'amour et de la miséricorde, ils en restent à la justice distributive, ces embauchés de la première heure. Et pourtant, Dieu ne l'avait-il pas dit et redit? C'est la miséricorde que je veux. Dieu riche en miséricorde. Qu'est-ce que cela, sinon la bonne nouvelle par excellence, révélation de toujours? Mais ça veut dire quoi, au juste, cette miséricorde? Qu'il n'y a pas de privilégiés, que les derniers sont au même rang que les premiers, que Dieu aime tous les hommes sans exception, en particulier les plus délaissés, qu'il répand ses bienfaits à profusion à toute heure et dans toute situation, que dans sa bonté, Dieu n'est pas limité par nos mérites et donne plus que nous n'avons gagné par nos propres efforts. Mais ça veut dire aussi, cette miséricorde, que Dieu écarte quiconque prétendrait avoir des privilèges et des droits en empêchant les autres d'en profiter. Voilà qui nous conduit à la conclusion qu'on pourrait intituler « Le difficile apprentissage de la gratuité ». Dans un monde divisé, endurci, blindé, usé par l'avoir, le profit, la jouissance, Dieu proclame qu'il offre à tous le même salaire, l'ouverture de sa maison, la participation à son intimité trinitaire, et cela sans aucune différence entre ses enfants. Et pour nous en convaincre, il n'a cessé de hisser nos pensées au-dessus d'elles-mêmes, notre cœur au-dessus de lui-même, notre œil mauvais au-dessus de tout mal, renonçant même à ses privilèges jusqu'à s'agenouiller devant l'homme et lui laver les pieds. Alors, que nous faut-il encore ? Finalement, frères et sœurs, qu'est-ce que cette parabole, sinon un nouvel appel à la conversion, un constant et même appel à travers le temps et l'espace à accueillir l'amour, à en vivre et à le partager sans mesure ni calcul, comme Dieu fait pour chacun, sans égoïsme ni mélange, sans recherche d'aucun éloge et d'aucune satisfaction dans le don, la gratuité, le détachement. Oui, que nous faut-il encore ? Sinon, apprendre et réapprendre sans cesse cette gratuité, toujours à refaire. Entrer encore et toujours dans le régime de la grâce offerte. Se réclamer à toute heure du jour et en tout lieu d'un Dieu bon et généreux, sans faire injure à son mystère et sans le trahir devant les hommes. Et combien, en ces choses si grandes et vraies, vous et moi, n'est-ce pas, on se sent petit, pauvre et fragile. Ouvriers de la même vigne, enfants réunis autour de la même table, avec Marie, osons nous étonner encore et nous émerveiller de l'amour qui nous donne jusqu'à son cœur, son corps et son sang ici et maintenant. Qu'avec notre mère et reine, nous chantions partout et aussi à tous ceux que nous pouvons rencontrer, la miséricorde du Père s'étend d'âge en âge.